Chers frères et sœurs, pourquoi le pape habite-t-il à Rome ? Il pourrait peut-être habiter à Paris ou à Buenos Aires ou à Jérusalem ou à Antioche ou je ne sais pas où. Pourquoi habite-t-il à Rome ? Alors donc vous savez sans doute que c'est parce que Rome est le lieu où Pierre et Paul sont morts martyrs. Et s'ils sont morts martyrs à Rome, ce n'est pas par hasard. Ils y sont venus par des chemins différents. Ils sont morts aussi à Rome, martyrs à des dates différentes. Mais c'est la providence, le bon Dieu, qui les a conduits jusqu'au cœur de l'Empire romain pour y donner leur vie. Ils ont eu beaucoup d'autres occasions de mourir ailleurs. Dans la première lecture, on voit Pierre qui était arrêté, donc c'était à Jérusalem. Dans ses lettres, on voit que Paul a été arrêté une multitude de fois et que, voilà, il aurait pu mourir dans beaucoup de circonstances. Mais, de fait, c'est à Rome que chacun d'entre eux ont donné leur vie pour Jésus. Alors, mais comment Paul et Pierre sont-ils venus à Rome ? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, on va voir pour Paul déjà. Paul avait le désir de venir à Rome depuis longtemps. Il l'écrit, je crois, dans son épître aux Romains, justement aux habitants de Rome. Il avait l'intention d'aller jusqu'au bout du monde. Alors, le bout du monde, à l'époque, on ne connaissait pas encore l'Amérique, donc c'était l'Espagne. Et il voulait, bien sûr, s'arrêter à Rome au passage. Donc, il avait ce désir. De fait, les choses se sont passées un peu différemment. Il est arrivé comme prisonnier à Rome. Mais vous sentez que Paul, son désir d'aller à Rome, c'était lié au désir d'annoncer Jésus jusqu'au bout du monde. C'est plus la dimension de l'universalité, la catholicité de l'Église. Alors, pour Pierre, maintenant, Pierre, lui, il serait bien resté auprès de son lac à la pêche. Au début, donc, il était plus... sa base, c'était Jérusalem. Et d'ailleurs, Paul, dans sa lettre au lac Galate, dit, ben voilà, Pierre a été envoyé vers les Juifs, et moi, donc, vers les païens. En fait, cette affirmation de Paul n'est plus tout à fait vraie après, puisque déjà, Pierre est conduit par l'Esprit-Saint, vous vous rappelez au chapitre 10 des Actes des Apôtres, il est invité de façon un peu tout à fait providentielle par un centurion romain, et puis il voit que l'Esprit-Saint leur est donné comme à eux, comme à lui, donc il dit, ah ben non, je ne peux pas leur refuser le baptême. Et petit à petit, donc, Pierre, un peu plus tard, dans ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, donc au chapitre 15 des Actes des Apôtres, on voit que Pierre prend la défense de ceux qui viennent du paganisme pour devenir chrétiens, en disant non, on ne va pas leur imposer la circoncision, voilà. Et Pierre, à un certain moment, donc laisse à Jacques le mineur le soin de gouverner, on va dire, l'église de Jérusalem. Et Pierre, à ce moment-là, sa mission prend une dimension plus universelle. On ne sait pas exactement comment il est arrivé à Rome, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Rome, il y avait un peu des dissensions entre les chrétiens qui venaient du paganisme, ceux qui venaient du monde juif. Et c'est à la faveur aussi de ces dissensions que finalement Pierre va donner sa vie pour Jésus, puisque l'empereur profitera de ça pour accuser les chrétiens, etc. Je n'entre pas davantage dans les détails, mais pour dire que simplement que Paul est arrivé à Rome davantage par ce désir de porter l'évangile jusqu'au bout du monde, parce que Jésus a offert sa vie pour tous, et il ne faut pas que personne, par notre faute, soit exclu du salut qui nous est offert par Jésus. Pierre, c'est pas tellement, est plus le garant de l'unité de l'Église. Et s'il est arrivé à Rome, c'est aussi pour préserver cette unité de l'Église et autour de la foi, justement, dont il est le dépositaire. Et c'est un peu dans ce sens-là que nous avons ce passage d'évangile où il a ce pouvoir, les clés du royaume des cieux, ce pouvoir de lier, de délier. Voilà, c'est au service de l'unité de l'Église. Je crois en l'Église une, sainte, catholique, universelle et apostolique. Donc, Paul a plus la mission de faire grandir l'Église, Pierre de préserver l'identité, l'unité de ce corps qu'est l'Église. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, chaque année, à l'occasion de cette fête des Saint-Pierre et Paul, le pape remet aux archevêques métropolites, il leur remet ce qu'on appelle le pallium, cette forme d'écharpe, on va dire, d'étole, ou je ne sais pas, autour des épaules, un peu comme ils portent la brebis sur leurs épaules, mais qui manifeste ce lien d'unité avec le successeur de Pierre. Alors donc, Pierre et Paul sont venus avec des perspectives différentes à Rome, et c'est là que, par la Providence, ils ont donné leur vie pour Jésus. Cette fête des Saint-Pierre et Paul, il me semble que c'est, on pourrait l'appeler aussi d'une certaine façon, la fête de la fraternité dans l'Église. Saint-Pierre et Saint-Paul, vous savez qu'ils ont déjà leur fête personnelle, si on peut dire comme ça. Ils ont, donc Saint-Pierre, c'est le 22 février, la chaire de Saint-Pierre. Saint-Paul, le 25 janvier, la conversion de Saint-Paul. Ça fait référence à des moments importants de leur vie. Donc, ils ont une relation tout à fait personnelle avec Jésus et elle est honorée aussi par ces fêtes. Mais aujourd'hui, l'Église souhaite les fêter ensemble. Et dans la tradition de l'Église, la tradition chrétienne a toujours considéré Saint-Pierre et Saint-Paul comme inséparables. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des frictions, on le voit dans certaines lettres, dans les Actes des Apôtres, ou au moins dans la lettre aux Galates, etc. Parce que notre fraternité est quelquefois mise à l'épreuve, mais leur unité a toujours triomphé, notamment par leur amour de Jésus. Alors, ils avaient des sensibilités assez différentes, mais dans leur amour de Jésus, ils ont trouvé leur unité. On voit que chacun, pour sa part, mais avec une manière différente, se sont donnés totalement à Jésus. Et c'est ça qui a fait que leur ministère a porté du fruit. Ils se sont donnés totalement et ils ont accepté, comme le disait Benoît XVI, aussi à payer de leur personne leur fidélité au Christ dans chaque situation. Voilà, alors donc c'est cette fête de l'Église à travers la fête des apôtres Pierre et Paul. Et alors pour nous, donc je conclue par cela, c'est aussi pour nous un appel à la fois à travailler à l'unité et à la catholicité, à l'universalité de l'Église. À la catholicité, c'est à l'universalité de l'Église, c'est-à-dire que nous ne perdions jamais de vue que Jésus a offert sa vie pour tous les hommes. Et alors nous sommes invités, chacun pour notre part, à rejoindre ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Alors chacun, nous avons des dons un petit peu différents, donc ça, pas tous de la même manière, mais chacun est invité à emporter le souci. Alors un petit flash publicitaire. Donc ceux qui veulent, il y aura des petites tracts jaunes à la sortie pour, si vous voulez évangéliser à l'occasion de la fête des fruits rouges, dimanche prochain à Noyon, dimanche après-midi. Vous serez invité, voilà. Vous pouvez travailler à l'universalité de l'Église dans le sens de porter Jésus à tous les hommes, particulièrement à ceux qui ne le connaissent pas encore. À l'universalité, mais aussi à l'unité de l'Église. Alors, ça suppose que nous accueillons avec docilité ce que le Saint-Père peut nous indiquer, puisqu'il a été placé par le Seigneur comme pivot d'unité pour son Église. Alors ça suppose aussi de lire un peu ce qui nous dit, pas écouter simplement ce que les journalistes nous en disent, mais de lire. Et puis ça suppose aussi de travailler à cette unité, de jamais réduire l'Église à notre manière de faire. C'est encore une fois cette fête des apôtres Pierre et Paul, on voit que Pierre ne peut pas résumer l'Église à lui-même. Il est trop petit pour ça, Paul non plus. Dans l'Église, il y a place pour des différentes manières de faire, dans la mesure où tous nous sommes centrés sur Jésus. Alors demandons cette grâce par Marie, qui était bien là à la Pentecôte pour veiller sur l'Église et qui est toujours présente. Demandons-lui de nous aider à travailler à l'unité et à l'universalité de l'Église. Amen.